Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man,
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, vous êtes dans l'Amérique, vous, Eric Manilakiza, en votre compagnie depuis la capitale des États-Unis, à la mise en onde de Lionel Runanilagahima. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. Ce soir, nous parlons de l'immigration aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a validé la mesure de l'administration Biden qui a annulé un décret migratoire controversé de son prédécesseur Donald Trump. Les juges du temple américain ont estimé que l'arrêt du renvoi automatique des migrants vers le Mexique ne violait pas la loi américaine sur l'immigration. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants d'Amérique centrale et d'Amérique latine tentent de rejoindre les États-Unis. Ils fuient la violence et la pauvreté et certains n'arrivent pas à destination. Il y a quelques jours, un camion surchauffé et surchargé transportant des migrants a été retrouvé à San Antonio au Texas. Le bilan monte à 53 morts parmi les migrants à bord. Il s'agit de l'un des pires drames de l'immigration aux États-Unis. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Nous avons Maître Joseph Mitterrand des FA. Maître, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci de m'avoir parmi vous.
En Californie, nous sommes en ligne avec Dennis Beaver. Il est avocat à Backfield. Bonsoir, Monsieur Beaver.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ruben Joannem, il est à Minneapolis. C'est un activiste. Bonsoir, Monsieur Joannem.
Bonsoir à vous et à tous nos auditeurs.
Claude Porcella, il est journaliste. Bonsoir Claude.
Bonsoir Eric.
Vous êtes un habitué de l'Amérique et vous, bienvenue encore une fois.
C'est toujours un plaisir.
Le maire de San Antonio a qualifié le drame d'horrible tragédie humaine. Claude, quel a été votre sentiment en apprenant cette douloureuse nouvelle?
Bien, écoutez, c'est un sentiment de tristesse et d'horreur à la fois. Comment peut-on... être aussi cruel, imaginer que l'on soit aussi mauvais, aussi méchant pour pouvoir transporter ainsi une soixantaine de migrants sans leur donner d'eau, sans leur donner rien du tout. Enfin, le camion n'était pas de toute évidence réfrigéré. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. En 2003, il y avait déjà eu un incident semblable où 19 migrants avaient été retrouvés, morts, bien sûr, et complètement déshydratés. Un autre incident du même genre avait eu lieu en 2017. Et là, c'était une dizaine de personnes qui avaient trouvé la mort dans des circonstances identiques.
Joannem, votre sentiment?
Eh bien, c'est vraiment ce dicton latin « homo homini lupus ». L'homme est un loup pour l'homme. La méchanceté bat son plein parce que ces malheureux, ces victimes, on les a d'abord arnaqués parce qu'il faut payer des sommes exorbitantes aux racketeurs avant de se permettre ce voyage à bord de ce trailer à une température caniculaire. Donc, c'est payer pour se faire assassiner. C'est double tragédie.
Monsieur Buver, votre sentiment?
J'ai très, très peu de sympathie. Très peu. Et je pense que la plupart des Américains s'en fichent complètement. Ces gens qui viennent ici illégalement, ils fauchent notre fric, hein, c'est l'État qui donne à manger, hein. Ils sont souvent des mecs qui sont sortis de prison, pas d'éducation. C'est pas notre faute, c'est pas la faute des Américains, c'est la faute de leur pays. Et peut-être avec un peu de chance, les autres qui apprennent ce qui se passe vont pas venir ici comme ça. Donc ça a l'air un peu cruel peut-être, mais j'ai très peu de sympathie.
Maître Fa, votre sentiment ?
Oui, je ne sais pas si c'est à dessein que j'interviens juste après M. Beaver, mais je vais naviguer un peu à contre-courant de M. Beaver pour dire, de Maître Beaver autant pour moi, pour dire que j'ai beaucoup de sympathie pour ces familles parce que même si je devais épouser l'idée de Maître Beaver, parmi ces personnes qui ont été, je vais mettre entre guillemets, assassinées parce que c'est un acte cruel pour moi, il y en a qui sont des personnes bien, qui ne sont pas des repris des justices, qui sont suffisamment éduquées et qui ne cherchaient qu'à venir ici trouver refuge par rapport au nombre de problèmes qu'ils traversent dans le pays respectif d'où ils viennent. Donc je pense que jusqu'ici, j'aimerais émettre toutes mes condoléances aux familles de ceux qui ont été éprouvés dans cet événement, si elles nous écoutent pour l'instant.
Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a rejeté la responsabilité du drame sur le dos du président Biden. Il estime que ces morts sont le résultat de sa politique d'ouverture des frontières. Votre commentaire, Maître Fa?
Ben écoutez, je suis également en train de naviguer complètement à contre-courant des propos du gouverneur du Texas, Greg Abbott. C'est un républicain, comme vous le connaissez. Et dites-vous bien que les problèmes de décès dans la migration ou bien les mouvements humains, ça date de plusieurs années. Monsieur Biden ne peut rien contre cela. Au contraire, je pense plutôt que le gouvernement américain et même le Texas a une certaine contribution là-dedans. Ce n'est pas un problème de républicain, ce n'est pas un problème de démocrate, c'est un problème humanitaire qui date depuis la création de l'humanité. Il y en a plusieurs qui meurent à travers la Méditerranée pour aller de l'Afrique vers l'Europe et il y en a plusieurs qui meurent entre le transit de l'Europe pour les États-Unis. Et ce n'est pas une question des Africains, ce n'est pas une question des Hispaniques, mais c'est un problème humanitaire d'une urgence d'une solution diplomatique pour renforcer les frontières. Si l'on voit qu'est-ce qui est la cause à la base du départ de chacun de son pays pour un pays où il se sent plus en paix. Je vais par exemple penser ici aux questions de guerre, aux questions de financement des guerres par les pays étrangers, dans les pays où les gens sont en train de souffrir. Pensons à l'Afrique, les guerres qui sont en Afrique. Qu'est-ce qui cause ces guerres? Qu'est-ce qui finance ces guerres? Les armes viennent d'où? Pensons à l'Amérique latine. Quelle est la cause des mouvements migratoires de l'Amérique latine, de l'El Salvador, Guatemala pour l'Amérique? Qu'est-ce qui cause le départ des Mexicains pour l'Amérique? Est-ce que ces problèmes ne peuvent pas trouver une solution diplomatique? Je pense que oui. Donc ce n'est pas un problème de Biden, ce n'est pas un problème de républicains ou de démocrates, c'est un problème humanitaire.
Monsieur Beaver, votre commentaire?
Quand Biden a dit, d'accord, business as usual, comme d'habitude, disons les frontières sont ouvertes maintenant, alors... qu'est-ce qui s'est passé? Comme un million de gens sont venus ici illégalement depuis sa présidence. Le problème, c'est vrai, oui, mais Maître a bien raison. C'est pas notre problème, c'est le problème des pays, leur gouvernement, corruption, tout ça. Mais quand on dit, voilà, venez, vous êtes les bienvenus, tu vois 50 morts comme ça.
Claude Porcella.
Écoutez, il est assez normal que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, accuse l'administration Biden. Cette bonne guerre, c'est un argument politique qui va être utilisé par les républicains. Les républicains ont pas mal d'armes déjà prêtes pour attaquer les démocrates à l'occasion des élections des mandats. Et l'un de ces arguments, alors bien sûr, il y a la situation économique, la violence des armes, la hausse de la criminalité, le prix du gaz, bien sûr. Et l'un des arguments qu'ils invoquent justement et auquel a fait allusion mon ami Beaver, c'est l'immigration, une immigration non contrôlée. Je ne m'étonne pas que le gouverneur républicain, qui en plus brigue le renouvellement de son mandat, mette tout ça sur le dos de l'administration Biden.
Robin.
Bon, monsieur, je comprends bien les choses. Il ne faut pas banaliser les choses. Et la population migrante dans le monde, ça se déplace depuis des temps et des temps. Les Européens, les Occidentaux sont arrivés ici illégalement. La population indigène ne leur a pas imposé quoi que ce soit. En fait, ils sont arrivés par force. Et aujourd'hui encore, les Occidentaux, avec leur passeport et leur argent, leur armes, ils vont partout. Ça se crée des problèmes. Maintenant, les migrants qui se voient forcés d'attendre à la frontière mexicano-américaine sont des victimes de l'impérialisme, du colonialisme et de l'exploitation. Nos exploiteurs européens sont allés partout dans le monde s'approprier terres et biens et même forcer les gens dans l'esclavage. Maintenant, c'est le colonialisme, c'est à l'envers, puisqu'on a déjà tout pris comme ressources, donc les gens n'ont plus les moyens de survivre dans leur coin de la planète. Donc, ils sont obligés de se déplacer pour forger un quotidien. Qu'on le veuille ou non, le problème va rester avec nous. On fera mieux de trouver une solution un peu plus humanitaire à ce problème.
Monsieur Biver, le démocrate Beto O'Rourke, qui veut être le prochain gouverneur du Texas, c'est un opposant à M. Abbott. Il appelle plutôt au démantèlement des filières de trafic d'êtres humains et les remplacer par davantage de voies dédiées à l'immigration légale qui reflètent les valeurs américaines et les besoins des États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
On a essayé ça depuis des années. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas la faute des Américains. Le problème, c'est au Guatemala, au Mexique, ou n'importe où. Leur gouvernement pourri. Et donc les gens veulent quitter le pays. Oui, vous venez ici légalement. Légalement. Ça, on peut toujours faire ça. Et je suis tout à fait pour ça. L'Amérique se fait. C'est un pays qui se fait d'immigrants, mais qui viennent ici légalement. C'est tout à fait évident.
Robin,
la question d'être migrant, moi je ne parle pas de gens qui sont illégaux, parce que la vie, on est obligé de prendre des dispositions pour survivre. Parfois, les pays d'où venaient ces migrants sont souvent exploités par des sociétés multinationales qui sont nécessairement des affiliés qui ont des branches en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc, ce que vous voyez au Guatemala, en Haïti et ailleurs, ce sont une forme d'exploitation qui force les gens à travailler dans des conditions pressées inhumaines pour des salaires de misère. Donc, ils sont obligés de prendre la fuite pour aller pour chercher un ailleurs où l'existence peut se faire de façon humainement. Donc, le problème, il faut chercher à réduire l'exploitation par le moyen des sociétés multinationales qui exploitent tout là-bas au pays, au Guatemala, à El Salvador et dans quelques autres pays en Afrique, au profit de l'impérialisme occidental.
Maître Effa, que pensez-vous de cette idée du démocrate Beto O'Rourke qui parle des valeurs américaines et des besoins des États-Unis? Faut-il se limiter seulement sur les deux aspects, les deux facteurs?
Ben, je veux dire que Beto O'Rourke veut simplement parler de la réincarnation des valeurs universelles des droits de l'homme. Il s'agit simplement du renforcement ou bien de la reconnaissance et du respect surtout de la Convention universelle des droits de l'homme et surtout la Convention de 1951 sur les droits des réfugiés. Organiser un passage ordonné et surtout surveiller des migrants, ce n'est que ça que l'humanité demande. Tout pays devrait pouvoir être capable de reconnaître les droits qui sont accordés à chaque citoyen du monde qui demande un asile ou un refuge dans un autre pays. On ne refuse pas l'immigration légale. Ceux qui immigrent légalement, très souvent, ne sont pas directement en train de demander l'asile. La plupart des personnes qui demandent l'asile ne le font pas dans des ambassades. Ils sont obligés de trouver refuge dans des pays voisins, avant de commencer le processus de déplacement ou bien d'installation comme asilé ou bien réfugié politique. Donc, reconnaissons tout de même que parmi la porosité des frontières permet à ceux-là qui sont en train de fuir des pays pour question de guerre ou bien pour question d'arrestation politique, de pouvoir avoir accès au pays et de demander l'asile normalement. Et pour revenir à la question du jour, le renversement de la décision de M. Donald Trump qui obligeait le gouvernement à faire déplacer les demandeurs d'asile vers le Mexique, avec la possibilité qui est maintenant donnée à Biden de permettre aux migrants de demander l'asile directement à partir des États-Unis, ceci serait bien favorable à l'idée de M. Beto O'Rourke qui dit que l'Amérique se reconnaît favorable à la venue des migrants ici. Il ne s'agit pas simplement de dire que c'est un problème des immigrants, ils viennent ici illégalement, ils viennent ici, ce n'est pas des gens qu'on veut ici, mais il s'agit des gens qui ont des droits et que l'Amérique a dit haut et fort devant les Nations Unies, nous allons respecter ces droits. Voilà pour ce que je peux dire sur ce sujet.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Claude Porcella, vous l'avez dit, ce n'est pas la première tragédie du genre. Je cite, en juillet 2017, des migrants clandestins avaient trouvé la mort dans une remorque surchauffée garée sur un parking de supermarché près de San Antonio. L'ONU estime que cela illustre une fois de plus le besoin crucial de voies légales, de sûres pour les migrations. Est-ce que vous sentez cette nécessité?
Ah oui, c'est évident, mais c'est un problème de nombre, dirais-je. Cette année, simplement, vous avez près de 2 millions de migrants qui ont essayé de venir aux États-Unis, qui ont été arrêtés, renvoyés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gardes frontaliers pour faire face à un si grand nombre de migrants. Un autre problème, c'est celui des juges. Il n'y a pas suffisamment de juges pour pouvoir examiner les demandes des migrants. Tant que ce problème n'aura pas été résolu, on va avoir un problème. Mais le problème des migrations, c'est un problème qui dure depuis des décennies, comme le rappelait Denise Beaver. La dernière fois qu'il y a eu une réforme de l'immigration, c'était sous Reagan. Mais à l'époque, il y avait 3 millions d'immigrants, 3 millions de clandestins, de sans-papiers aux États-Unis. Alors Reagan a dit, bon, ben, on va les accepter. Mais on accepte que ceux qui sont dans le pays en ce moment. Après, hop, on ferme les frontières. Et il faudra suivre la voie légale pour pouvoir venir aux États-Unis. Depuis, rien ne s'est passé. Et combien de présidents ont essayé? George Bush a essayé, Carter, tous les présidents, Obama, bien sûr. Et tous se sont cassés les dents. Ça semble un problème extrêmement, extrêmement difficile à résoudre. La personne qui est en charge en ce moment de ce dossier épineux, c'est la vice-présidente Kamala Harris. Et jusqu'à présent, il faut le dire, elle n'a pas été capable de faire grand-chose. Elle avait fait une tournée en Amérique centrale, et je crois que c'est au Guatemala où elle a été très abrupte, et elle a déclaré lors d'une conférence de presse « ne venez pas ». Alors, ça a été évidemment un peu d'un mini-scandale. On dit pas ces choses-là aussi abruptement. Mais depuis, plus grand-chose ne s'est passé. Biden, qui a déploré, bien sûr, la tragédie récente, et ses condoléances, bien sûr, aux familles des victimes, mais il a aussi souligné qu'il avait signé récemment une loi pour sanctionner les trafiquants, les responsables de trafic humain.
Vous avez anticipé à ma question suivante que je vais poser aux autres invités. Maître Fa, quels sont les enjeux et les défis de la politique migratoire aux États-Unis et comment endiguer l'afflux migratoire?
Bien, les enjeux sont énormes, mais comment endiguer l'afflux migratoire? Je pense qu'il s'agit de rentrer dans les pays d'origine, comme le disait M. Beaver et d'autres intervenants, de commencer à résoudre le problème dans les pays d'origine. Il s'agit des solutions diplomatiques. Renforcer l'économie des pays d'origine, parce que d'autres, parmi les migrants, ce n'est pas tout le monde qui a un problème politique. Il y en a qui ont des plus problèmes de famine. C'est des choses qu'il faudrait résoudre à la base. Ça, c'est d'après-midi des choses. Au niveau maintenant des États-Unis, on peut décider de recruter plusieurs juges, plusieurs personnels d'immigration, plusieurs polices des frontières pour s'assurer que la frontière n'est pas autant poreuse. Et pour les juges, pour ceux qui sont déjà sur les territoires, si on les examine de façon expéditive et on se rend compte qu'ils n'ont pas une demande d'asile valable ou bien qu'ils n'ont pas une raison d'être sur le sol américain, c'est tout à fait normal qu'on leur demande de rentrer chez eux. Ça, c'est ce que prévoit la Convention universelle des droits de l'homme, l'opportunité d'être écouté avant de déterminer si oui ou non vous avez une revendication ou bien des droits valables. Donc, il s'agit en première position de renforcer les politiques économiques et la sécurité dans les pays d'où viennent ces migrants, et en deuxième position pour ceux qui sont sur le sol américain, de renforcer le dispositif immigrationnel sur place pour une adjudication expéditive des documents ou bien des demandes d'asile ou alors des documents qui sont en instance d'immigration en attente des décisions.
Monsieur Vivin ?
Alors, ces 50 morts, c'est une très bonne pub. Hein. Venez ici, hein, et vous allez trouver la mort. Et avec un peu de chance, les gens vont penser, alors, peut-être que ça vaut pas le coup, hein, je reste chez moi.
Et Robin ?
Bon, pour nous autres qui sont bien nantis, nous n'avons pas beaucoup de choses à perdre, mais pour la personne qui est démunie, qui est défavorisée, qui vit dans le désespoir, sa force est inouïe, c'est la vie ou la mort. C'est difficile à comprendre pour nous autres, nous sommes bien à l'aise, nous n'avons aucun problème, nous n'avons pas à faire face à la faim chaque jour ou à voir mourir nos enfants, nos familles. Mais je vous assure que pour les personnes, qu'ils soient des réfugiés politiques ou économiques, leurs forces sont inouïes, ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour rester en vie. Et c'est là même au péril de leur vie. Donc nous ferons mieux de traiter le problème avec beaucoup plus de délicatesse, parce que si on ne cherche pas à aider ces pays en voie de développement à résoudre certains problèmes de base, bon, on ne va pas pouvoir empêcher ces migrants de se déplacer et de trouver une façon quelconque pour être au seuil des États-Unis, pour être en Europe, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Ils vont se déplacer. On ne va pas pouvoir les empêcher parce que leur force, comme je le dis, est inouïe.
Claude Porcella, vous venez de le souligner, aucune administration ne parvient à résoudre ce problème. Est-ce que ça symbolise une Amérique irréconciliable?
Oh, écoutez, moi je reste optimiste quand même. Les choses peuvent changer. C'est un problème évidemment, jusqu'à présent, qui n'a pas été résolu depuis des décennies. Mais qui sait, il arrivera peut-être à un point et des tragédies comme celles que nous mentionnions au début de cette émission contribuent certainement à faire changer les esprits. Et, les Américains sont tout de même un peuple généreux, accueillant. Et les migrants ont tout de même des défenseurs ici aux États-Unis, notamment du côté des progressistes américains. Donc, les choses peuvent s'améliorer. Le président Biden est certainement plus favorable à une réforme. Est-ce qu'il réussira mieux que ses prédécesseurs? Ça, c'est une grande question, un grand point d'interrogation. Mais c'est tout de même un grave problème quand vous avez des millions de personnes qui arrivent aux frontières. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout pays a le devoir de protéger ses frontières. On peut pas laisser entrer tout le monde. Tous les chefs d'État, Emmanuel Macron y compris, vous le diront, on peut pas accueillir toutes les misères du monde. Aucun pays véritablement ne peut le faire. Et une fois encore, je le dis, je reste optimiste que la situation, sinon, si elle ne peut pas être résolue intégralement, s'améliorera. Il ne faut pas oublier non plus le cas des Dreamers. Vous savez, c'est 800 000 jeunes qui étaient venus avec leurs parents. Donc, on ne peut pas leur reprocher parce que quand ils sont venus, ils étaient mineurs. Et sous Obama, il y avait eu cette clause, le Dreamers Act, la loi sur les rêveurs, comme on dit, ces jeunes qui aspiraient justement à faire leur vie aux États-Unis, qui avaient respectait les règles, qui était allé à l'école, qui faisait des études, qui avait un métier. Alors cela, pour eux, c'est véritablement une situation dramatique parce qu'ils ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir rester ou si un jour ils devront retourner dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous, consacrée au problème de l'immigration ici aux États-Unis. Merci à Robin Joannem, activiste à Minneapolis. Merci.
Merci bien pour l'opportunité de présenter mes opinions.
Merci à Dennis Beaver, avocat à Baxfield en Californie. Merci.
Oui.
All right, ciao. Okay.
Merci à Claude Porcella.
Merci de m'avoir invité, Eric.
Merci également à Maître Joseph Mitterrand-Defa pour votre contribution.
C'est toujours un véritable plaisir, Eric.
Eric Manilakiza a été avec vous à la présentation, la mise en onde assurée par Lionel Nanilagahima. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.